patriarca, 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 patriarca.
La parole est mienne, pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
Sex and violence.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout.
I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horse.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
Notre révolution sera sans concession.
Dégenrer l'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir et bienvenue sur Déjeuner. Notre émission s'appelle Babes in Space et c'est une émission où on va parler de la science-fiction et des femmes. Et alors on a eu l'idée de cette émission-là parce qu'on est des fans d'ASF et aussi en tant que féministes, alors vous allez voir.
Alors pour commencer, on s'est dit que c'était peut-être bien de cadrer un peu ce que c'était pour nous la science-fiction. Alors en fait, il y a plein de définitions, mais nous, on a décidé de rester autour de celles, en gros, qui tournent autour de « que se passe-t-il si ?». Et en fait, pour nous, la science-fiction, c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas des histoires qui sont que centrées sur des personnages et ce qui leur arrive, mais ça parle aussi des mondes, de mondes qui peuvent être créés et dans lesquels ils vont évoluer. Et en gros, il y a trois genres de science-fiction qui sont souvent découpées en trois genres. Alors, il y a la science-fiction qu'on appelle « hard », donc la « dure », qui se base surtout sur des sciences dures, en fait, comme la biologie, la technologie, la physique, et qui a souvent été montrée comme la science-fiction la meilleure, en fait, la plus pure. Et bah, nous, ce n'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus, mais bon, on en reparlera. Il y a, par opposition à la hard, la soft, qui est plus basée sur les relations humaines et où la science est moins importante, qui peut se rapprocher du coup de ce troisième genre qui est la science-fiction sociale, où là du coup ça étudie des organisations sociales différentes dans des univers différents.
Et alors il y a un certain nombre de thèmes qui sont assez récurrents dans la science-fiction, comme par exemple le voyage dans le temps. L'Uchronie, qui c'est en fait dans une histoire, à partir d'un moment donné dans le passé, l'histoire est modifiée et imaginée différemment. Les mondes parallèles, les voyages spatiaux avec ce qu'on appelle les space opéras, qui donc se passent au niveau interplanétaire. les histoires de robots, de cyborgs, de mutants, de clones. Et donc en fait tout un tas de variations sur le thème de s'intéresser aux relations entre les machines et les humains. Et tout ça, ça apparaît particulièrement dans ce qu'on appelle le cyberpunk, qui est un genre qui apparaît à partir des années 80 à peu près, où aussi on trouve beaucoup les modifications corporelles, l'internet, et qui souvent présente un futur plutôt glauque, il faut le dire. Il y a le post-apocalyptique et l'anticipation, où du coup il y a deux types d'anticipation différentes, soit l'utopie, où en gros c'est la description d'un monde idéal, ou la dystopie, où c'est imaginer un monde cauchemardesque. Il y a le thème des êtres qui ont des super-pouvoirs, ou encore des rencontres avec des extraterrestres. Et un peu des questionnements récurrents en fait dans les œuvres de science-fiction, c'est souvent s'interroger sur l'impact en fait des sciences et des technologies sur à la fois sur l'individu, sur les rapports entre les individus et aussi sur l'organisation sociale en fait qui en découle ou qui peut être influencée donc par la science ou la technologie, et aussi la question de savoir qu'est-ce que l'humain, de définir l'humain. Enfin, ou de chercher une définition de l'humain, en fait, dans ces histoires-là. Et alors, une petite remarque, en fait, on ne va pas parler de la fantasy, qui pourtant est très souvent associée à la science-fiction, parce qu'en fait, il y a beaucoup de passerelles entre les deux. Nous, on a choisi de ne pas trop en parler, parce que, personnellement, je crois que ce n'est pas ce qu'on préfère.
Même pas trop.
Mais aussi, en fait, ça aurait explosé les 1h30 de l'émission, que déjà, on va avoir du mal à faire tout tenir dedans. Alors, voilà. Et aussi, la science-fiction, c'est sur plein de supports. C'est des films, des BD, des livres. Nous, on a décidé de se concentrer sur la littérature, c'est-à-dire les nouvelles et les romans. Voilà.
Alors, si on essaye de voir un peu depuis quand il existe de la science-fiction, eh ben, c'est pareil, c'est une question qui peut avoir plusieurs réponses. Il y a des personnes qui font remonter la science-fiction aux religions et aux mythes. Et du coup, il y a un peu cette question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la science-fiction avant qu'il y ait de la science, en fait ? Mais en fait, ce qui est aussi donné comme le plus souvent le premier livre de science-fiction vraiment, c'est Frankenstein, donc de Mary Shelley, qu'elle a écrit en 1818.
Ouais, une femme.
Et en gros, dans Frankenstein, elle fait vraiment ça, elle part de découvertes scientifiques de son époque, comme l'électricité et tout ça, et elle extrapole un peu ce que ça pourrait donner, et du coup aussi des questions métaphysiques, philosophiques autour de l'humain, comme on disait tout à l'heure.
Et alors après, on parle des précurseurs en fait de la science-fiction à la fin du 19e et début du 20e, qui amènent des thèmes assez classiques en fait pour la suite dans la science-fiction, comme le voyage dans le temps et dans l'espace. Et on peut citer par exemple des écrivains comme Jules Verne ou H.G. Wells. Et ensuite, l'âge d'or de la science-fiction, on le situe souvent entre les années 20 et les années 50. Ou après, en France, c'est un peu différent parce qu'en France, la science-fiction était peu développée, notamment parce qu'il existait une censure plus forte, mais aussi, et c'est toujours actuellement comme ça, il y a une hiérarchisation plus forte de la littérature. Et donc, il est fait une distinction en fait, entre la littérature distinguée et la littérature de masse. Et donc, la science-fiction, elle n'était pas du tout considérée comme une littérature noble. Et aux États-Unis, en fait, ça s'est vachement développé par notamment l'industrialisation de la presse, et avec elle, l'apparition en fait de nombreux magazines de science-fiction bon marché, et dans lesquels on trouve dès le départ en fait des nouvelles de beaucoup d'auteurs connus. Cette forme du magazine a donc aussi une influence en fait sur la forme de l'écriture de la SF. En fait, c'est une forme courte et il y a beaucoup de nouvelles. Et quand il s'agit de récits plus longs à cette époque, et ben ils sont publiés en plusieurs épisodes. Et voilà, et c'est surtout en fait après la Deuxième Guerre mondiale qu'avec l'apparition de, enfin l'impression des livres de poche en fait, que des romans de science-fiction commencent à être publiés et qu'on trouve un peu moins de magazines, même si les magazines ça continue jusqu'à aujourd'hui quoi.
Et alors ensuite, il y a un gros changement qui se fait dans les années 60-70 et qui part notamment d'un magazine, anglais qui s'appelle New Worlds et qui est édité par Michael Moorcock, qui est aussi un écrivain de science-fiction. Et en fait, ça va lancer un nouveau mouvement qui s'appelle la New Wave. Et par ce mouvement-là, en fait, il y a vraiment un côté plus ambitieux où des gens veulent vraiment que la science-fiction soit une littérature et qu'il y ait plus d'expériences qui soient faites autour de ça, un peu comme dans le nouveau roman ou des choses comme ça. Et aussi au niveau du fond, il y a des histoires qui sont plus politiques avec des sujets assez centraux comme l'écologie, la sociologie, l'histoire, les différentes sexualités et les rapports de pouvoir et l'influence qu'a la technologie sur toutes ces choses-là. Et bon, bah aujourd'hui, pour aller un peu sur ce qui se passe maintenant, bah, il y a toujours des magazines, mais beaucoup moins, et qui sont moins vendus aussi. Il y a quelques romans de science-fiction qui, de temps en temps, arrivent au rang de best-seller. Et du coup, il y a une certaine reconnaissance littéraire. Mais la science-fiction est toujours vue comme une littérature très marginale, un peu une littérature roman de gare et tout ça, et qui n'est pas vraiment reconnue. Surtout en France, où, par exemple, elle n'est jamais enseignée. Elle n'est jamais à aucun programme de lycée ou à l'université, contrairement aux États-Unis où il va y avoir où ça peut être enseigné parfois. Et donc la science-fiction, je crois, on peut dire, elle est toujours vue un peu comme une littérature pour ados, surtout garçons un peu attardés, ou en tout cas juste comme une lecture divertissante qui est pas enrichissante intellectuellement. Mais on va vous montrer que c'est pas du tout ça en vrai.
Oui, justement, en fait, avec ces idées sur la science-fiction, que soi-disant elle serait destinée surtout aux ados, garçons, c'est une littérature pas très reconnue. Alors on peut se demander qu'est-ce que nous on y trouve et ou qu'est-ce que pourquoi des femmes en fait peuvent s'intéresser à la science-fiction. Et alors, quand on parle des lecteurs et lectrices de la science-fiction, c'est justement une des particularités de la science-fiction, qu'ils ont un rôle, actif et influent, en fait. Et ça, au point, en fait, qu'on a nommé ce phénomène le fandom. Enfin, ça vient du mot anglais kingdom, enfin, le royaume. Du coup, c'est difficile à traduire en français, mais ça donne quelque chose comme le royaume des fans, quoi. Et voilà, qui donc a une place à part entière en fait dans la science-fiction.
Alors ouais, les fans, ils ont une influence sur la SF de plusieurs façons. Déjà depuis la création des magazines de science-fiction, il y a le courrier des lecteurs qui a une place très importante. Beaucoup de lettres sont imprimées, il y a des colonnes dans les magazines. Et dans ces lettres, eh bien, les lecteurs et lectrices parlent de ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Ils lancent des débats autour de la science-fiction. Et ça, on verra, les femmes n'étaient pas absentes de ce genre de débat, autant comme lectrices qui écrivaient que comme sujet de discussion, en fait, les femmes dans la science-fiction. Et ces fans, du coup, ils ont aussi créé des conventions. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu un peu des images des conventions Star Trek ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas nouveau. Il en existe vraiment plein de ces conventions de science-fiction. En gros, il y a plein de gens qui se retrouvent, par exemple, dans un grand hôtel et ils vont à des conférences et tout ça. Et à la fin, ils remettent des prix. Et là, ben, il y a vraiment des rencontres entre les lecteurs, les auteurs, les éditeurs et tout ça. Et ce qui fait qu'aussi, il y a une barrière qui est très fine entre les auteurs et les fans. Parce que beaucoup d'auteurs étaient avant des fans eux-mêmes. Et il y a aussi des célébrités parmi les fans qui s'appellent les big name fans. Donc les fans avec des grands noms qui sont super connus et qui vont aussi être invités d'honneur à ces conventions pour discuter. Ou en tout cas, qui vont avoir une grande influence sur ce qu'est... Et du coup, on peut se poser un peu cette question, donc quelle place ont les femmes dans le fandom ?
Et alors, par rapport aux donc, lectrices de science-fiction, il y a, je vais vous lire une citation de Pamela Sargent, mais je vais la présenter avant parce que Pamela Sargent, c'est une écrivaine de science-fiction, elle a publié de nombreuses nouvelles et romans, mais surtout, elle s'est beaucoup intéressée à cette question de la place des femmes dans la SF. et elle a publié 5 recueils de nouvelles de science-fiction écrites par des femmes qui toutes annotées avec toujours des introductions très fouillées et très instructives. Et alors, ces recueils de nouvelles s'appellent en anglais Woman of Wonder. Il y en a 2 qui ont été traduits en français et c'est Femmes et Merveilles. Et alors, ce que je vais vous lire, c'est du premier tome qui est paru en 1974. Et où elle parle en fait justement du fait que en fait les auteurs de la science-fiction à cette époque-là, la proportion des femmes c'était entre 10 et 15% seulement. Et donc pour le lectorat c'est assez difficile à savoir, mais en comparant en fait le nombre d'abonnements en fait des magazines pour les hommes et les femmes, et ben ça donne à peu près les mêmes proportions. Et alors elle dit ce qui n'a rien de surprenant si l'on considère les rapports de la science-fiction avec les extrapolations scientifiques et techniques et le fait que science et technologie sont généralement considérées comme des domaines masculins. On a souvent découragé les femmes d'entreprendre des études scientifiques en invoquant diverses raisons. Elles n'ont pas les aptitudes nécessaires, elles sont essentiellement intuitives plus que rationnelles. Elles ne se soucient que de choses insignifiantes de l'instant présent et sont naturellement hostiles à toute espèce d'aventure intellectuelle, étant fondamentalement conservatrices. D'un point de vue pratique, il semblait bien peu raisonnable pour une femme de dépenser temps et effort demandés par des études scientifiques pour se voir en fin de compte reléguée au rang d'épouse et de mère. Les femmes étudiant sciences et technologies se sont souvent vues demander, et cela n'a pas disparu aujourd'hui, pourquoi elles prenaient des places qui eussent pu aller à des hommes. Et alors voilà, on voit un peu... Enfin, voilà quoi, comment le patriarcat il influe aussi sur la place des femmes dans la science-fiction. Et pourtant, les femmes étaient présentes notamment dans le courrier des lectrices. Et il y en avait beaucoup qui envoyaient des lettres, mais elles n'étaient pas vraiment considérées comme un public compétent. Et pour illustrer cette attitude assez méprisante envers les lectrices, on peut par exemple citer Gernsback, qui était un des éditeurs les plus connus, qui donc a fait une réponse à une lectrice qui fait le reproche que peu de lettres de femmes sont publiées dans les magazines.
Et donc lui, il lui dit, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on publie votre lettre quand même, mais il justifie quand même le fait qu'il y ait moins de lettres de femmes en disant « La seule différence entre le lectorat masculin et féminin est que nos lecteurs masculins soulèvent généralement des questions intéressantes au niveau scientifique, alors que les dames se contentent d'exprimer de manière générale leur approbation ou désapprobation. » Et donc on retrouve encore cette idée que ce qui compte le plus, surtout à cette époque-là, c'est la science. C'est ça. Une histoire est bonne si scientifiquement elle se tient.
Et alors dans les années 70, il y a donc des femmes qui créent la convention Wisconsin, justement par rapport aux femmes et la science-fiction. Enfin, c'est dans le Wisconsin, dans les États-Unis, enfin, d'où le nom. Et cette convention, elle est créée pour en fait permettre le lien en fait entre les femmes dans la science-fiction de quelque position qu'elles soient, enfin les lectrices, les auteurs, les éditrices, toutes quoi.
Et alors, au cours de cette convention, il y a un certain nombre de femmes qui se réunissent, pas mal des éditrices ou des écrivaines, qui décident de créer un prix. Et alors, Pat Murphy, une des cofondatrices, a dit que c'est un prix pour changer la façon dont les gens voient les... Elle dit que pour changer la façon dont les gens voient les hommes et les femmes, nous devons montrer des gens dans des rôles différents. Et du coup, ils décident de récompenser une nouvelle ou un roman qui casse un peu les stéréotypes de genre. Et ce prix va s'appeler le James Tiptree Jr. Award. Et on en reparlera tout à l'heure en présentant un peu qui c'était ce James Tiptree Jr.
Et alors voilà, tout ça, ça pose quand même toujours cette question, qu'est-ce qui amène les femmes à lire de la science-fiction ? Et pour ça, on a interviewé justement quelques lectrices de science-fiction sur leur rapport à la science-fiction.
J'ai commencé pas en lisant des livres, mais en lisant de la bande dessinée, parce qu'à l'anniversaire de mes 10 ans, une de mes tantes m'a offert... un Yoko Tsuno, donc une bande dessinée dessinée par un homme, un belge, qui raconte les aventures de Yoko, donc une japonaise qui vit en Europe, et il lui arrive des tonnes de trucs dans le monde, on va dire, réel, actuel, voilà. Et en même temps, il lui arrive des trucs complètement mirifiques avec des extraterrestres, alors elle se balade dans l'espace. Sinon, dans la SF, les trucs qui m'ont, je pense quand j'étais gamine, qui m'ont attiré le plus, c'était, je sais pas si on peut dire un truc qui a un rapport avec le paranormal, mais tous les trucs qui étaient rendus possibles, soit par les trucs hyper technologiques, soit parce que les gens avaient des super pouvoirs ou des trucs comme ça, enfin bref, comme la télépathie ou je sais pas quoi. Et voilà, c'était tout ce qui sortait les facultés humaines de leurs limites actuelles, quoi. Et alors ça, ça me faisait triper, vraiment. Et là-dedans, il y avait aussi un truc avec les voyages spatiaux, ouais, c'est ça. Je me souviens, ce truc de rapport au temps et à l'espace, enfin, le fait que les gens, ils aillent très vite, et puis en même temps, ils passaient moins de temps, plus de temps. Les autres, ils mouraient pendant que les autres, ils voyageaient. Enfin bon, tous ces trucs-là, moi, ça me sciait aussi, et j'adorais donc tous les trucs qui se passaient dans l'espace. Je pense que c'était l'époque où je lisais des trucs plutôt comme Fondation ou comme Hyperion, voilà, qui décrivent quand même des mondes justement hyper complexes, où il y a beaucoup de personnages, ou des intrigues compliquées. C'était aussi ma grande phase des romans, je sais pas, ouais, science-fiction, anticipation, écolo. Et par exemple, je tripais sur ces romans de Frank Herbert, la saga de Dune. C'est là que j'ai découvert que la science-fiction, c'était pas que les voyages intersidéraux, mais ça pouvait être aussi la description de rapports humains, très politiques, avec des descriptions de personnages vraiment très fouillés, enfin bon, voilà, des trucs hyper complexes. Et en plus, un rapport au milieu naturel de ces mondes-là, quoi. Et j'imagine que j'étais déjà un petit peu, influencée par le fait que mon héroïne de l'enfance était Yoko Tsuno, qui était donc une femme, et toutes ces histoires, enfin, c'est elle qui est hyper motrice de ce qui de l'action, de ce qui arrive, c'est elle qui pense ce qu'il faut faire, enfin c'est elle qui dénoue tout ce qui se passe, enfin bref, donc une espèce de super héroïne, quoi. J'étais frustrée, je pense, de beaucoup de livres que je lisais. Ben, les femmes avaient soit des rôles très très secondaires, soit si c'était des rôles plus en avant, des rôles assez au final stéréotypés pour des femmes, quoi. Mais ça cantonnait en tout cas les personnages dans des rôles. Et du coup, paf, j'ai glissé vers j'ai glissé vers les romans qui décrivaient plutôt, ou qui cherchaient en tout cas dans leur intrigue à fouiller les rapports entre humains et notamment les rapports de genre. Moi, en tout cas, j'ai l'impression, ou je le sens en tout cas en lisant, qu'il y a une différence entre ce qui a été écrit par un homme et ce qui a été écrit par une femme. Et ça me choque, c'est horrible, mais ça me choque moins une femme qui, au final, décrit des personnages masculins que des hommes qui écrivent des personnages féminins, comme s'ils étaient dans la peau de ces femmes, et voilà, bref, moi, ça m'énerve. Enfin, disons que j'ai essayé de chercher des femmes qui avaient écrit de la science-fiction. Et j'ai l'impression qu'on n'en trouve pas beaucoup en français, en tout cas, qui soit traduit. Et voilà, en tant que féministe, je trouve que ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de l'anticipation, de l'imaginaire, et donc qui permet de construire en fait des relations peut-être telles qu'on les aimerait ou telles qu'on les rêverait entre les personnes. Et donc par là même de lancer des messages de « Hey, regardez, on peut faire autrement » ou tenter des choses aussi, quoi, qui sont peut-être pas de l'ordre du possible aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est bien pour tester, ouais, une évolution possible, quoi, de qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place.
Moi, je suis venue à la science-fiction plutôt par le fantastique et par les trucs d'horreur quand j'avais 12-13 ans, entre autres parce que, ouais, ça m'ouvrait d'autres mondes possibles, et que j'en avais besoin à ce moment-là, pouvoir faire fonctionner mon imaginaire, tout ça. Et ben, du coup, progressivement, j'ai glissé vers la science-fiction par les auteurs... des auteurs classiques, quoi, style Lovecraft, Ray Bradbury, tout ça. Et j'ai trouvé des trucs hyper intéressants comme création d'autres mondes et aussi création d'autres sociétés et d'autres. Et de réflexion aussi sur la société. J'ai toujours surtout de la science-fiction d'anticipation, genre de prédiction de l'avenir à partir de la société telle qu'elle existe maintenant et d'imagination de ce qu'il adviendra de nous, de qu'est-ce que ce monde va donner et tout ça. Et ça m'intéressait à fond. Je suis devenue aussi féministe et je lisais surtout de la science-fiction écrite par des hommes. Et là, c'était la désillusion. Parce que soudain, alors que j'avais commencé à avoir des réflexions féministes et tout ça, il y avait plein de rapports genrés, plein de trucs que je ne voyais pas, qui étaient invisibles, qui soudain me sont apparus de façon flagrante. Et ça m'est apparu aussi de façon flagrante dans la science-fiction que je lisais. Et comment, ouais, c'est toujours des héros qui sauvent des pauvres femmes en détresse de situations pas possibles. Et comment, en général, les personnages féminins sont toujours super sexy, super... portent des combinaisons en cuir moulant, tout ça. Ce que je trouvais aussi intéressant, d'un certain point de vue, de mon point de vue de jeune Gwyn, que j'étais aussi devenue. je pouvais trouver ça intéressant, mais aussi dans un, sachant que c'était des gars qui l'avaient écrit, je trouvais ça aussi un peu blason et un peu. Et surtout dans la manière où elles étaient présentées, quoi. C'était des corps hyper sexy et où les choses héroïques qu'elles pouvaient accomplir, c'était juste dans une façon de les rendre encore plus sexy, mais qu'au final c'était toujours un gars qui avait le fin mot de l'histoire. Ça crée d'autres univers et ça ouvre des possibilités, ça ouvre plein de possibilités et c'est pour ça que je suis venue à la science-fiction et j'aimerais bien que ça ouvre aussi des possibilités à ce niveau-là. Et je pense même avant que je sois féministe, c'était un truc qui devait, dans mon attraction pour la science-fiction et tout ça, c'était un des trucs qui devait me plaire, c'est que j'étais pas une fille particulièrement normée et que juste dans la science-fiction, c'était des gens étranges, des gens bizarres, des gens pas normaux. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi toute une bande de gars qui lisaient de la science-fiction quand j'étais au lycée aussi, qui étaient plus vraiment des scientifiques. Et ouais, qui me faisaient ressentir que moi je pouvais pas comprendre. En plus j'étais littéraire. Mais ouais, on me faisait sentir que la vraie science-fiction c'était celle qui parlait de trous noirs, de choses qui moi me dépassaient un peu quoi. On me le faisait ressentir quoi, que c'était pas, que j'étais pas à leur hauteur et qu'à la limite j'avais rien à faire dans la science-fiction quoi. Mais c'est marrant parce que par contre au lycée, enfin autant j'avais que des amis garçons qui lisaient de la science-fiction. Autant, il y avait vraiment beaucoup de filles qui lisaient plus du fantastique et je pense qu'il y a qui trouvaient des choses, je pense qu'il leur apportait des choses au niveau du féminisme, au niveau de discussions que j'ai eues. Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'était la science-fiction d'anticipation. Et elles y touchaient pas. Mais aussi dans ce truc, la politique, c'est pareil, c'est un peu comme la science, c'est un truc de gars, et les filles sont pas vraiment censées en parler, ou en discuter, ou même avoir quoi que ce soit à dire là-dessus. Et moi, j'étais plus ou moins acceptée, mais je pense dans ce truc où j'étais aussi pas forcément perçue comme une vraie fille, quoi. Parce que je faisais plein de trucs qui se transgressaient. Mais c'était un peu une transgression, je pense, ça rentrait dans le cadre de toutes les autres transgressions que je faisais, quoi.
Je pense que je cherche pas mal dans la SF, c'est d'abord de nouveaux imaginaires sur les identités, et dont les identités genrées, aussi sur les types de pratiques sexuelles. Et après, du coup, tout comment ça restructure aussi tous les mondes, en fait. Où il n'y a plus forcément des femmes, des hommes, alors il y a des choses qui sont complètement inversées, où il n'y a plus d'identité genrée, etc. Et avec, donc, tous les changements de société que ça crée. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai trouvé agréable et aussi que je recherchais là-dedans. Et après, je pense aussi que j'aime bien la SF... où il y a des cyborgs ou des choses comme ça et qui essayent d'amener à avoir aussi, par exemple, de développer de nouveaux sens ou de nouvelles perceptions du corps ou des choses comme ça. Et il y a des nouvelles de SF qui m'ont, par exemple, marqué là-dedans et qui m'ont fait réfléchir à des trucs autour du handicap, par exemple. Et donc, je pense que c'est vraiment ces trucs de comment la SF peut t'amener en inventant des mondes, des modifications corporelles, de plein de choses, comment elle t'amène à réfléchir sur des rapports de domination, sur plein de choses comme ça. Aussi pour moi, ce que je trouve intéressant dans la SF, c'est que ça permet de pouvoir aborder plein de théories féministes, par exemple, de façon ludique et des fois de façon vraiment humoristique et pas que de façon théorique. Fait que pour moi, c'est aussi des choses plus accessibles.
Météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Contact. 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 faut à tout prix. Rejoigne mon amour dans la galaxie.
Alors là, on vient d'entendre une chanson de Brigitte Bardot qui s'appelle Contact.
Et on continue avec Dégenré, Babes in Space, pour parler de la science-fiction et des femmes. Et alors, on va parler là de la représentation des femmes dans la SF. Et pour commencer, et ben justement, comme on a entendu dans les interviews des lectrices de science-fiction, et ben pour c'est pas toujours très intéressant comment les femmes sont représentées en fait dans les romans de science-fiction ou dans les nouvelles de science-fiction. Et donc par rapport à ça, Pamela Sargent, elle dit: nous pouvons peut-être comprendre pourquoi les écrivains de science-fiction ont pris pour avérés certains préjugés, tout comme le reste de la société autour d'eux. Préjugés dont souffrirent les femmes tout autant que les minorités ethniques. Si la science était le domaine des hommes, c'était aussi celui des hommes blancs. Aujourd'hui, on trouve davantage de personnages de couleur ou appartenant à d'autres minorités dans les romans d'anticipation, bien qu'on puisse compter sur les doigts d'une main le nombre d'écrivains de science-fiction noirs. Les personnages féminins existent depuis plus longtemps, mais en d'ordinaire des rôles secondaires. On peut s'étonner qu'une littérature qui se glorifie de rechercher des solutions et des hypothèses contraires à celles en lesquelles nous croyons d'ordinaire ne se soit pas plus souciée du rôle des femmes dans l'avenir. Il est à cela deux réponses possibles, bien qu'elles ne s'excluent point mutuellement. Ou bien la science-fiction n'est pas aussi audacieuse et originale que voudraient le croire certains écrivains, ces deux qualités étant un idéal plus qu'une réalité. Ou bien cette littérature, faite pour mettre en doute nos croyances, montre malgré elle à quel point certains préjugés sont profondément enracinés en nous, malgré des efforts parfois couronnés de succès pour se libérer par l'imagination du temps et du lieu.
Alors, comme on l'a déjà un peu mentionné, depuis le début des magazines de science-fiction, en fait, il y avait dans le courrier des lecteurs un débat autour de la présence des femmes dans la science-fiction. Est-ce que cette présence était souhaitable ou non ? Alors, comme on peut facilement l'imaginer, il y avait pas mal de lectrices qui réclamaient plus de personnages féminins auxquels elles pourraient s'identifier. Mais beaucoup de lecteurs masculins pensaient que ce n'était pas du tout souhaitable qu'il y ait plus de personnages féminins parce que ça allait amener à un certain ramollissement de la science-fiction. Parce que pour eux, un personnage féminin, c'était forcément synonyme d'une histoire romantique ou sexuelle. Et du coup, ça allait un peu à l'encontre de cette idée de la science-fiction pure, purement scientifique. Et bon, on peut comprendre pourquoi beaucoup de lecteurs masculins pensaient ça, parce que c'est vrai que dans la science-fiction, il y avait principalement des femmes qui étaient là en tant qu'objets sexuels, ou elles étaient là en fond, en tant que femme au foyer, ou une demoiselle en détresse à sauver, ou des mères, ou des choses comme ça.
Oui, et les rares fois où des personnages féminins étaient plus au premier plan, c'était des scientifiques assez âgés, plutôt asexués, comme par exemple dans la série des robots d'Isaac Asimov.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Asimov, quand il était jeune, il faisait partie de ces lecteurs qui ont participé largement à ce débat, et lui, il disait vraiment qu'il ne voulait pas de femmes dans la science-fiction. Mais bon, avec les années, il a un peu revu sa position. Et c'est vrai que voilà, donc avec ces images de femmes-là qui existaient déjà dans la science-fiction, plus le fait que, donc là on parle un peu des années, l'entre-deux-guerres, ou un peu le début des années 50 et tout ça, et ben les femmes, la position des femmes dans la société, elle était vraiment cantonnée au foyer principalement, et à certains rôles bien précis.
Et pourtant, le rôle des personnages féminins avait bien une importance en fait pour les écrivains. Et Pamela Sargent l'explique assez bien. Les femmes, dans leur rôle limité, restaient cependant utiles à l'écrivain. Elles avaient une fonction pratique. Dans son histoire, il pouvait avoir un personnage qui expliquait le mécanisme d'un gadget ou un principe scientifique à une ignorante jeune fille, et par la même occasion au lecteur. Les femmes pouvaient aussi servir de récompense pour quelque action héroïque. On pouvait les sauver d'un danger. Parfois, elles pouvaient être dangereuses elles-mêmes et rusées, des ennemis que devait vaincre le héros. En outre, elles pouvaient orner les couvertures des magazines qui les montraient souvent vêtues de costumes aussi révélateurs que peu pratiques.
Alors là, je vais un peu vous parler d'une nouvelle qui s'appelle The Last Woman, la dernière femme, de Thomas Gardner et qui a été écrite en 1932, où là, ça illustre bien cette idée que les femmes participeraient à un ramollissement de la science-fiction. Et aussi, on sent un peu par extension de la société. Parce qu'en gros, en fait, dans cette nouvelle, on est dans une société où les hommes ont éliminé toutes les femmes, sauf une. Et ils les ont éliminées parce que ces femmes, c'était des tentatrices contre-productives. Et que maintenant qu'il n'y avait plus de femmes, vraiment, la société a été beaucoup plus performante et pleine d'innovations scientifiques. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans pas mal de nouvelles de science-fiction jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, sur cette idée-là, qu'une société d'hommes est de fait plus efficace.
Et alors, si les femmes donc, étaient peu présentes en tant qu'individus fortes, elles peuvent par contre exister dans la SF en tant que groupe social jugé plus ou moins dangereux qui pourrait prendre le pouvoir. Et ce thème apparaît notamment après la Première Guerre mondiale, où les femmes s'étaient retrouvées à gérer la société en grande partie sans les hommes. Et donc de cette situation est née comme une peur des hommes que les femmes pourraient ne pas avoir besoin d'eux. Et ça pouvait même être poussé jusqu'au fantasme de société de femmes qui gardent les hommes quasi en esclavage ou je sais pas, juste pour la reproduction.
Et il y a une nouvelle qui illustre bien ce thème. Ça s'appelle The Feminine Metamorphosis, la métamorphose féminine, de David Keller, qui est sorti en 1929 dans un recueil qui s'appelle When Women Rule, donc quand les femmes dirigent ou dominent, qui est un recueil en fait qui reprend des nouvelles autour de ça, de sociétés matriarcales ou de sociétés que de femmes. Et dans cette nouvelle, en fait, elle se situe juste après la Première Guerre, et les femmes, elles décident de s'unir pour prendre le pouvoir. Parce qu'elles trouvent ça vraiment injuste, tout ce qu'elles subissent dans cette société, après tout ce qu'elles ont fait pendant la Première Guerre, et qu'elles n'ont pas juste envie de retourner à la maison et de retrouver la vie d'avant. Et si l'auteur ne dénonce pas vraiment cette chose-là, en disant oui, vraiment, c'est un peu abusé de renvoyer les femmes au foyer comme ça, et bien la société qui est ensuite créée par les femmes, c'est une société hyper dure, que lui décrit comme étant une société contre nature et chose gravissime, même contre Dieu. Voilà. Donc vraiment, les femmes, il faut qu'il y ait un équilibre un petit peu, mais attention à elles, parce que potentiellement, elles portent toujours un peu un truc de diabolique, quoi.
Ouais, et justement, ces sociétés de femmes qui donc étaient regardées d'un œil critique et considérées comme contre nature, et où en fait les femmes n'étaient pas considérées comme des vraies femmes, et ben souvent en fait à la fin de l'histoire il y a l'arrivée d'un homme ou d'un groupe d'hommes pour les remettre sur le droit chemin, et souvent en fait ça passe par la soumission, par l'acte sexuel. Alors ça peut être symbolique par un baiser ou effectif par un acte de pénétration sexuelle. Mais donc en fait il y a vraiment cette idée de pour faire une vraie femme, en fait il faut qu'il y ait la soumission à l'homme par l'amour.
Et quand ces scènes-là, donc un peu de transition où la femme devient une vraie femme, et ben elles sont souvent décrites comme un viol, mais sans être condamnée, et toujours en disant oui, mais au fond elle aimait bien ça parce que, et puis ça lui a permis de trouver qui elle était vraiment. Et pour montrer ça, je vais vous lire un petit extrait d'une nouvelle qui s'appelle Who Needs Men, de Edmund Cooper, c'est un roman pardon, qui est sorti en 72. Et du coup, en fait, c'est un personnage femme qui a donc subi cette transformation magique grâce à la pénétration génitale qui raconte en quoi vraiment on ne peut pas dire que c'était un viol. Donc voilà ce qu'elle dit. Aucune femme, surtout pas une exterminatrice, qui est consciente et n'est pas blessée, ne peut être violée. Alors je vais te dire ce qui s'est passé, ma chère. J'en ai eu marre d'être frappée et j'en ai eu marre de me débattre en vain. Et le dégoût et l'écœurement ont comme disparu. Et le poids sur moi me semblait, disons, intéressant. Et quand il me bloquait les bras, mordait ma gorge et enfonçait ses doigts dans mes seins, ça me faisait un mal de chien. Mais qu'est-ce que ça m'excitait ? Nom d'une déesse comme ça m'excitait. Alors je l'ai laissé entrer. Alors il a grogné, je gémissais, et on s'est débattu comme deux créatures écervelées et frénétiques. Je te le dis, je ne savais pas ce que c'était un orgasme jusqu'à ce que cet animal roux projette son sperme dans mon ventre. Ça le mérite d'être assez explicite.
Et alors, par rapport à cette guerre des sexes, en fait, et tout, il y a quand même cette présentation en fait des sociétés de femmes. Il y a aussi des exceptions à la règle, avec par exemple la nouvelle Consider Her Ways de John Wyndham de 1956. En français, le titre a été traduit par Le règne des fourmis. Et alors cette nouvelle, elle amène des choses intéressantes en fait, parce que elle fait une analyse beaucoup plus critique des rapports sociaux entre hommes et femmes. Et c'est quasi une critique en fait des rapports patriarcaux. Où par exemple, en fait, elle dénonce la romance comme un outil du patriarcat pour contrôler les femmes.
Alors en gros, pour résumer rapidement l'histoire, c'est donc une femme qui vit à l'époque contemporaine où l'histoire a été écrite, qui prend une drogue et qui se retrouve projetée dans une société future où là, tous les hommes ont disparu. Donc les femmes se sont organisées quasiment en caste, en fait, une division très proche de la division chez les fourmis, d'où la traduction de la nouvelle en français, et qui montre une société figée, assez lente, mais où il y a quand même des choses intéressantes. C'est qu'il y a une historienne que va rencontrer notre héroïne, qui, elle, du coup, porte ce regard très critique sur la romance et aussi sur son utilisation qui est faite par le capitalisme, comment les deux marchent ensemble pour créer une division entre les femmes, en fait, et pour les rendre complètement esclaves du patriarcat, en gros. Et donc, je vais vous lire deux petits extraits, un qui montre en quoi les femmes sont divisées, et ensuite, qui montre aussi qu'il y a des privilèges parmi les femmes, et ça, c'est une idée assez intéressante pour l'époque, je trouve, qui montre que, bah oui, selon quelle classe sociale ou de quel pays on habite, eh ben, on ne subit pas avec la même force les oppressions telles que la romance patriarcale, capitalisme. Alors, donc, cette historienne explique à notre héroïne que chaque femme, individuellement, est ainsi séparée de toutes les autres, tout en étant mise en compétition avec elle, et donc presque sans défense. Et l'amour dont vous parlez, ma chère, n'existait que dans votre petite partie du monde, protégée par des conventions polies et rentables. Vous avez à peine été autorisée à voir son autre visage, qui n'était pas glamourisé par la romance. Vous n'avez jamais été ouvertement achetée ou vendue comme du bétail. Vous n'avez jamais eu à vendre votre corps au premier venu afin de survivre. Vous ne vous êtes pas trouvée être une des femmes qui, à travers les siècles, ont crié à l'agonie et souffert et sont mortes sous les assaillants d'une ville mise à sac. Vous n'avez pas non plus été jetée au feu pour leur échapper.
Et voilà, il y a une autre limite, en fait, de ce livre, et que l'homosexualité, elle est inexistante, quoi. Enfin, c'est une société qu'avec des femmes, mais elles n'ont pas d'histoire d'amour, elles n'ont pas de rapport sexuel, comme si c'était pas envisageable. Et alors voilà, en fait, un des grands tabous, en fait, dans la science-fiction, malgré quelques tentatives. Par exemple, Sturgeon, il a dans The World Well Lost, en 53, il a mis en scène en fait une homosexualité masculine d'une manière positive. Ce livre a créé un énorme scandale. Et il y a aussi l'écrivain Philip Farmer qui, dans les années 50 et 60, a décrit des sexualités hors normes, et il était jugé aussi comme dégoûtant et pervers. Et pour voir apparaître l'homosexualité féminine ou lesbianisme en fait de manière positive dans la science-fiction, il faut attendre les auteurs femmes et féministes des années 70, comme par exemple Joanna Russ, et dont on va parler un peu plus tard. Et il y a Alexis Leckay qui a écrit un essai sur la science-fiction et sexualité, et qui parle de Joanna Russ, qui, elle, interpelle de manière assez provocatrice les auteurs de science-fiction sur leur rapport à l'homosexualité. Quand on fait l'amour avec un être venu d'ailleurs, c'est plutôt avec un étranger du sexe opposé. Comme si l'important était là. Que préfériez-vous ? Un humain du même sexe ou bien un rhinocéros du sexe opposé ? Un rhinocéros, répond le cœur des auteurs interrogés par Joanna Russ.
Alors, il y a aussi des auteurs qui ont essayé un peu de sortir de ce qu'on appelle la guerre des sexes. Voilà, il y a tout un tas d'écrits autour de ça, sur la guerre des sexes en science-fiction, parce que c'est vrai qu'elle est particulièrement présente dans pas mal de livres, et du coup de sortir de ce côté binaire en imaginant des personnages qui seraient hermaphrodites ou androgynes. Alors un exemple de ça, c'est un livre de Theodore Sturgeon, qu'il a écrit en 1960 et qui s'appelle Venus plus X. Donc je ne sais pas s'il est traduit en français, mais on peut imaginer que ce serait Vénus plus X. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un homme qui se réveille chez les Laidom. Si on le met à l'envers, on voit que ça fait modèle. Et qui lui explique un peu leur monde, comment ça fonctionne. Et eux, ce sont tous des êtres androgynes. Mais en fait, qu'ils sont par choix. Ils ont subi des transformations chirurgicales volontaires en réponse à cette guerre des sexes, justement, et à l'inégalité qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Donc, ça peut être assez intéressant comme moyen de réponse, en disant bah, ni homme ni femme, tous androgynes, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut reprocher un peu à ce livre, la limite de ça, c'est que, comme dans pas mal de livres où il n'y a plus qu'un genre, eh ben, ça montre un monde où il n'y a vraiment pas de grande diversité individuelle. Comme si les genres disparaissaient, ben, tout le monde serait obligé d'être peut-être pareil. Et le genre qui subsiste est un genre quand même beaucoup plus proche de ce qu'on connaît nous aujourd'hui comme le genre masculin. Comme si le masculin c'était neutre en fait. Et que c'était acquérir un genre, c'était devenir plus féminin. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, ça, on l'a vu, même dans des romans écrits par des femmes plus tard, quand le genre disparaît, ben, on a l'impression en fait, qu'on n'a que des personnages masculins en face de nous.
Et on va écouter un petit morceau de Robotnichka qui s'appelle...
001, 0001, quelque chose comme ça.
Oui, plein de 0 et plein de 1. Et vous êtes toujours sur Dégenré ce soir avec Babes in Space, de la science-fiction et des femmes.
Alors on va maintenant parler des femmes auteurs de science-fiction. Et du coup on va un peu essayer de se poser cette question. Existe-t-il une écriture féminine par opposition à une écriture masculine? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe vraiment? Autant dans les thèmes abordés que dans la façon de les aborder. Alors, en fait, les femmes, elles ont commencé... en fait, les traces qu'on en trouve, c'est des publications de nouvelles de femmes au moment de l'âge d'or, donc dans les années 50. Et là, les femmes parlaient de sujets domestiques, en fait. C'était des histoires qui se passaient à l'intérieur du foyer, où les femmes avaient des rôles de mère, d'épouse, et qui étaient souvent décrites comme des histoires couche-culottes. Alors, on va vous parler de quelques exemples d'histoires couche-culottes.
Oui, par exemple, il y a Judith Merrill qui a écrit plusieurs nouvelles et des romans aussi, je crois.
Surtout des anthologies, en fait.
Et pour ça. Et elle a, ouais, c'est ça. Elle était surtout aussi éditrice, en fait, dans les années 50 et 60, de recueils de nouvelles. Et elle éditait régulièrement des recueils des meilleures nouvelles de l'année. Et qui, par exemple, par Pamela Sargent, sont citées comme des recueils très pertinents, dont les choix de nouvelles qui sont faits. Et alors elle a écrit, alors Judith Merrill, elle a écrit une nouvelle qui s'appelle That Only a Mother en 48. En français, le titre c'est Et seule une mère. Et cette nouvelle, en fait, elle reflète l'inquiétude créée par le développement en fait des armes nucléaires et décrit un monde qu'elles auraient pu nous laisser. C'est un peu cette nouvelle, elle se lit un peu comme une sorte d'avertissement. C'est l'histoire d'une mère en fait qui a peur que son bébé pourrait être mal formé. Et dans les lettres qu'elle envoie au père du bébé, elle parle par exemple notamment du nombre d'infanticides qu'il y a autour d'elle à cause des nombreux bébés mutants qui naissent. Et, mais elle est contente, heureusement son bébé va bien, elle est heureuse de ça. Et en fait quand le père revient et il voit pour la première fois son enfant, c'est un peu le choc parce qu'on se rend compte que le bébé il n'a pas de membres. Et donc cette nouvelle, elle parle aussi en fait du rapport différent, enfin de l'amour maternel en fait qui est aveugle et qui ne voit pas en fait que le bébé il est mal formé et donc la différence aussi avec la perception en fait qu'on a le père.
Alors une autre nouvelle, c'est Subcommittee de Zina Anderson qui est sortie en 62, donc sous-comité je pense on pourrait l'appeler. Et alors, en fait, là, ça parle à nouveau d'une mère, en tant que mère et épouse. Et il faut savoir que Zina Anderson, elle était institutrice dans le civil. Et elle parle souvent d'enfants, de professeurs et de tout ça. Et là, l'histoire, en gros, c'est que les Terriens sont en guerre avec un envahisseur extraterrestre, des envahisseurs extraterrestres. Et du coup, il y a des négociations qui sont engagées. Et il y a une femme qui va accompagner son mari, qui va négocier. Et pendant que lui, il est occupé à essayer de sauver le monde, et ben elle garde son fils. Et son fils, il devient copain avec l'enfant d'une alien, en fait. Donc les deux mères, la terrienne et l'alien, se rencontrent. Elles deviennent copines, elles discutent. Du coup, la terrienne apprend un peu la langue des extraterrestres. Et elle comprend aussi qu'en fait, s'ils sont sur Terre, c'est pas pour tout détruire, c'est parce qu'ils ont besoin du sel qui est indispensable à leur reproduction. Et du coup, la femme terrienne intervient dans les négociations et explique ça. Et voilà, et du coup, le monde est sauvé, c'est merveilleux.
Ouais, moi j'ai l'exemple d'une autre histoire pour sauver le monde. C'est Mildred Klingerman qui a écrit en 51, ou publié en 51, « Minister Without Portfolio ». En français, c'est « Dites-nous grand-mère ». Et c'est une bonne grand-mère qui rencontre dans un parc des extraterrestres. Mais elle ne s'en rend pas compte. Et elle fait amicalement la conversation avec eux. Ils échangent des photos. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'elle assure ainsi l'harmonie interstellaire et la paix avec les extraterrestres.
Alors, on voit que là, il y a plusieurs exemples de femmes qui sauvent le monde. Mais quand même, dans les années 70, il y a pas mal de féministes qui ont émis des critiques par rapport à ces histoires. Parce qu'elles disaient, OK, les femmes, elles sauvent le monde, mais c'est sans le faire exprès, en gros. Ou juste parce qu'elles sont complètement à la masse, comme la grand-mère. Et du coup, elles sont toujours aussi réassignées à des qualités féminines, et des rôles féminins, des stéréotypes de qu'est-ce que la femme est censée gérer et tout ça. Et du coup, il n'y a aucune remise en question des rôles genrés, en fait. Mais je pense que nous, on peut quand même dire que, même si c'est vrai, les critiques des féministes, de cette époque-là, on peut les entendre et tout ça, mais on peut aussi aller plus loin et se dire que finalement, d'avoir un point de vue, ne serait-ce que ça, le point de vue des femmes, dans ces histoires-là, et ben c'est quand même une chose qui était assez rare à l'époque. Et du coup, ça peut aussi apporter un éclairage différent sur ce qui se passe dans le monde. Et ça montre aussi que ce qui se passe dans le foyer et dans le cercle privé, et ben c'est aussi important. Et il y a aussi des choses à gérer là-dedans qui peuvent avoir beaucoup de retentissement. Et voilà, et donc ça donne aussi un éclairage assez intéressant sur la réalité de cette époque et tout ça.
Pour revenir à cette histoire de est-ce qu'il existe une écriture féminine, on avait envie aussi de vous lire une citation ou plusieurs citations d'une écrivaine contemporaine française qui s'appelle Joëlle Vintrebert et qui donc a répondu en fait sur un forum à des questions où plein de gens pouvaient lui poser des questions, justement le fandom, hein, où il y avait aussi plein d'autres écrivains et tout. Et alors, la question était en fait de savoir si elle croit qu'il existe une écriture ou un point de vue spécifiquement féminin, et si elle pense que son roman, il est question de son roman qui s'appelle Pollen, aurait pu être écrit par un homme. Alors elle dit « Argue ! Encore une fois, la tarte à la crème de la sensibilité féminine. Pour y couper court tout de suite, lors de la publication de mes premiers écrits, on m'a dit que j'écrivais comme un homme, avec des images d'hommes, comme si ça voulait dire quelque chose. J'imagine que si j'avais signé d'un pseudo masculin, comme Gilles Thomas ou James Tiptree Jr., personne n'aurait imaginé que j'étais une femme. Je pense qu'il y a des écrivains, bons ou mauvais, qui écrivent avec leur trip ou pas, point barre. Alors, suis-je une écrivaine féministe ? Non, si l'on considère que je n'ai jamais voulu dans mes romans mettre la femme ou le statut des femmes systématiquement au devant de la scène. Comme le fait Joanna Russ, par exemple, qui est sans doute le prototype de l'écrivaine féministe de SF. Oui, si l'on considère que j'ai néanmoins toujours été attentive à ce statut et si mes personnages féminins ne sont jamais de simples faire-valoir. Je n'ai pas conscience d'écrire en tant que femme. Je me sens vraiment sans sexe quand je fais mon travail d'écrivain. Évidemment, je ne suis pas neutre, comme Dambala, un de ses personnages, mais une femme avec une expérience de femme, et cela transparaît sans doute dans mes écrits.
Et Vatrebert, là, elle mentionne des femmes écrivaines qui utilisent des pseudonymes d'hommes ou neutres, et il y en a eu d'autres. Donc en France, par exemple, il y a Julia Verlanger qui écrit sous le nom de Gilles Thomas. C'était plutôt dans les années 50-60. Et aux États-Unis, il y a Gertrude Barrows Bennett qui a publié une série qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait The Hedge of Cerberus, en 1919, donc ça remonte. Et il y a aussi André Norton qui a eu plein de prix, notamment un pour l'intégralité de son œuvre. Et qui disait bien ça, que le choix, il n'était pas innocent, en fait, d'avoir un pseudonyme neutre ou masculin. Et la personne la plus connue par rapport à cette histoire, c'est donc James Tiptree Jr., qui non seulement avait ce pseudonyme d'homme, mais qui a gardé une identité d'homme, en fait, très longtemps, dans le sens où personne vraiment savait que c'était une femme, et que cette personne, elle essayait de jamais vraiment dire clairement qui elle était. Du coup, il y a plein de gens qui pensaient que c'était quelqu'un qui travaillait pour les services secrets et tout ça. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui avait beaucoup voyagé et qui connaissait pas mal le monde. Donc, il y avait vraiment tout un mythe autour de ce personnage. Et en fait, en 76, la vérité explose au grand jour. James Tiptree Jr. n'est autre que Alice Sheldon, qui écrivait aussi sous le nom de Racuna Sheldon, donc là en tant que femme, et des œuvres du coup un peu plus clairement féministes. Et c'était un peu la honte pour certaines personnes, notamment Silverberg, qui est un écrivain de science-fiction qui est assez connu aussi, qui au moment où il y avait un peu des rumeurs, on se disait on sait pas très bien qui c'est quand même, James Tiptree Jr., peut-être bien ce serait une femme, lui il disait mais non, mais c'est vraiment pas possible d'imaginer ça, parce que vraiment c'est une écriture, tout ce qu'il y a de plus masculin, un peu à la Hemingway, très vive, tout ça, très audacieuse. Et donc, en fait, c'était aussi un peu embêtant pour le milieu de la science-fiction, donc milieu très masculin, parce que, du coup, James Tiptree, c'était un peu la caution pro-féministe des auteurs de SF, où il disait toujours « Oh non, mais vous pouvez pas dire que la SF est sexiste, il y a quand même des gens comme des hommes comme James Tiptree qui ont écrit des choses pro-féministe et tout ça. Et le meilleur exemple de ça, sans doute, c'est une nouvelle qui est sortie en 73 qui s'appelle The Women Men Don't See, les femmes que les hommes ne voient pas. Et donc, il y a une nouvelle qui est assez culte, qui à l'époque a été nominée pour deux des prix les plus importants de science-fiction, le Hugo et Nebula Award. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que James Tiptree, donc a dit à l'époque « Non, non, moi je me retire, je veux pas ces prix parce que je veux laisser la place aux jeunes. » Mais en fait, ce qui est ressorti plus tard, c'est quand la raison pour laquelle donc, elle s'est retirée de cette compétition, c'est parce qu'elle en avait justement assez de servir de caution pro-féministe, et que là, elle voyait bien venir le truc qu'on allait récompenser son espèce de pro-féminisme masculin. Et donc voilà, elle a préféré se retirer.
Et alors, par exemple, ce qui est vraiment intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'elle détourne en fait plein de clichés de la science-fiction. Par exemple, un des clichés très récurrents, c'est les femmes qui sont enlevées par des extraterrestres et qui doivent être sauvées par le héros masculin. Et dans cette nouvelle-là, c'est une femme qui supplie activement les extraterrestres pour les emmener, parce que ça ne peut pas être pire ailleurs que le sort qui lui est réservé sur Terre en tant que femme.
Et d'ailleurs, elle explique ça, donc cette femme, Ruth, elle s'appelle, au narrateur, qui est un homme, Don. Et en fait, Don lui dit, non mais maintenant, les femmes ont des droits, tout ça, tout va bien, quoi, c'est l'égalité. Et puis elle lui répond, les femmes n'ont pas de droits, Don, à part ce que les hommes nous accordent. Les hommes sont plus agressifs et plus puissants, et ils dirigent le monde. Quand la prochaine véritable crise va les perturber, nos soi-disant droits disparaîtront comme la fumée là-bas. Nous retournerons là où nous avons toujours été, dans la pauvreté. Et peu importe ce qui a mal tourné, sera toujours attribué à notre liberté, comme la chute de Rome, vous verrez. Et ça, c'est une idée qui est reprise dans d'autres nouvelles de science-fiction, que s'il y a une crise qui arrive, quelque chose se passe mal, eh ben, on va tout de suite blâmer ça sur les femmes et leur liberté, que vraiment, elles ont pris trop de place, la libération des femmes, vraiment, ça a créé tout un tas de catastrophes. Et il y a un exemple de ça, c'est une série qui a été écrite par Susie McKechanas, donc ça s'appelle Hold Fast Chronicles, les chroniques de l'Hold Fast. Alors, je ne sais pas les titres en français, pardon. Et le premier, qui a été écrit en 1974, ça s'appelle Walk to the End of the World. Et en fait, ça décrit une société post-apocalyptique où les femmes sont vraiment traitées comme des esclaves, des bêtes de somme. Et ça s'explique parce que on leur attribue les causes de la catastrophe. C'est à cause d'elles, elles sont révoltées contre les hommes, donc il y a eu grosse catastrophe, apocalypse, et maintenant on les punit dans la nouvelle société.
Et alors, pour revenir un peu à notre historique sur les femmes écrivaines de science-fiction, on voit vraiment un changement dans les années 60 et 70, où, comme on l'a déjà dit, la SF s'ouvre plus généralement, en fait, avec la New Wave. Et à ce moment-là, il y a aussi beaucoup plus d'écrivains femmes, en fait, qui sont publiés. Alors, on ne sait pas, en fait, si avant, il y avait aussi déjà beaucoup d'écrivains femmes, mais en tout cas, elles étaient vachement moins publiées. Et donc, à ce moment-là, il y a comme ce qu'on appelle un peu la deuxième vague du féminisme dans la SF. Et il y a aussi une forte contre-réaction, comme souvent hein, avec le féminisme. Et il y a notamment le reproche qui est fait aux féministes de se servir de l'ASF pour écrire des pamphlets politiques féministes. Alors que, enfin, à ce moment-là, alors qu'en fait, beaucoup de ces femmes étaient déjà présentes dans les fandoms depuis très longtemps.
Et jusqu'à encore récemment, et sans doute encore aujourd'hui, il y a toujours ce débat entre les auteurs hommes de science-fiction, où certains pensent vraiment que la science-fiction a gagné quelque chose avec une arrivée plus massive des femmes auteurs de science-fiction. Et d'autres qui disent, bah non, vraiment, la science-fiction s'est adoucie, on a perdu en connaissances scientifiques, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, mais qui est toujours le mythe que les femmes ne comprennent rien aux sciences, et ça va peine compter jusqu'à 4. Et il y a même un article qui est sorti de Charles Platt en 89, qui, alors lui, il appelle ça carrément le viol de l'ASF. Donc c'est quand même pas mal d'utiliser le mot viol pour, à propos de féministes, je trouve. C'est tout très très fin. Et alors Pamela Sargent, toujours elle dit que vraiment, les femmes ont toute leur place, bien sûr, dans l'ASF, et que justement, il y a plein de points communs entre le féminisme et la science-fiction. Alors voilà ce qu'elle dit. À la fois au cœur du féminisme et de la science-fiction, ou qui devrait l'être en tout cas, est un questionnement sur l'état actuel des choses et sur comment elles pourraient être différentes. La science-fiction, avec plus de femmes l'écrivant, a eu la chance de devenir ce qu'elle avait toujours clamé être, une littérature embrassant de nouvelles possibilités.
Et voilà, et avant de enfin vous parler plus en fait de ces auteurs féministes qu'on évoque un peu là depuis le début, on va écouter un petit morceau de musique de Dani et ça s'appelle La Machine.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons, moi ça me rend dingue, je les adore.
machine. Une machine à tuer l'ennui. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes. Je me suis acheté une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine, pour les œufs c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon moi ça me rend dingue. Je les allume tout à coup, elles se reflètent sur le zinc. Je me suis acheté une machine à hydroflexinus. Elle prévoit tout ce qu'on devine, y'a un cerveau à rébus. Je me suis acheté une machine, je ne peux plus m'en séparer. Je me prends pour ma machine et je ne sais plus rêver. Mais je sais qu'un jour viendra, c'est sûr je prendrai le dingue. Je la jetterai loin de moi pour ne plus voir ce batrague. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Un gadget, un pouf centime, sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin.
Vous êtes toujours sur Dégenré avec Babes in Space, la science-fiction et les femmes. Et alors là, on arrive donc dans les années 60-70 et la suite. Et on voulait vous parler de quelques écrivaines de science-fiction qu'on aime particulièrement ou qui ont particulièrement marqué en fait la science-fiction. Alors la première c'est Joanna Russ qui est née en 37 à New York et qui a publié sa première nouvelle en 1959 pardon. Et Joanna Russ elle est sûrement une des écrivaines les plus féministes en fait de cette époque là. Elle se revendique ouvertement féministe et lesbienne et elle se fait remarquer par ses prises de position assez radicales et parfois provocatrices comme on en a déjà vu sur l'homosexualité. Elle écrit aussi des articles théoriques sur la science-fiction, notamment par exemple sur l'image des femmes dans la science-fiction et tout ça. Et l'unique roman d'elle qui a été traduit en français, si je me rappelle bien, c'est The Female Man en 75 qui est, le titre est traduit en français par l'autre moitié de l'homme, alors comme si on pouvait pas dire l'homme femelle, ce qui je trouve
ce serait trop est
pas exactement pareil. Et alors nous aussi on va présenter une nouvelle qui reprend le thème des sociétés de femmes mais qui le traite très très différemment de ses collègues angoissés de l'après-guerre dans les années 20. Et alors cette nouvelle, elle a été publiée en 72 et elle s'appelle When It Changed, lorsque tout changea. Et alors l'histoire, c'est que sur temps passé, une planète qui a été colonisée par la Terre, une épidémie a tué tous les hommes 6 siècles auparavant. Les femmes ont pris en main la société et ont procédé à la reproduction d'abord par parthénogenèse, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de fertilisant, et ensuite elles ont développé une méthode de fusion des ovules et elles reproduisent que des... enfin, il n'y a que des filles qui naissent, donc c'est une société entièrement de femmes. Les femmes dans cette nouvelle, elles sont décrites comme des personnages, enfin des personnes normales et raisonnables et pas comme des guerrières super amazones ou des barbares ou encore une colonie de fourmis, quoi. C'est une société quelque part tout à fait normale. Et chacune fait ce qui lui convient le mieux. En fait, elles sont libérées de tout rôle imposé. Et il y a des couples... enfin, elles s'organisent notamment autour de couples de lesbiennes qui vivent avec leurs filles. Et alors là, arrive un moment où arrivent 4 hommes de la Terre qui sont comme des étrangers pour ces femmes qui n'ont jamais vu des hommes, en fait, dans leur vie, quoi. Comme ça fait déjà 6 siècles, en fait, qu'il n'y a plus d'hommes. Les hommes, en fait, qui arrivent de la Terre sont horrifiés d'apprendre que depuis 30 générations, il n'y a plus d'hommes. Ils insistent lourdement sur le fait qu'il manque la moitié de la population, que c'est une tragédie, mais que maintenant, tout ira bien. Ils sont là. Ils vont sauver ces femmes. Et accessoirement, ils évoquent aussi que sur Terre, ils ont un problème génétique et ont besoin d'agrandir leur banque de gènes. En fait. Alors voici les réflexions de la narratrice par rapport à cette rencontre non souhaitée.
Cathy avait raison, évidemment. Nous aurions dû les descendre là où ils se trouvaient. Les hommes arrivent à temps passé. Quand une culture possède les gros canons et l'autre pas, le futur peut se prévoir assez facilement. Il est probable que d'autres hommes seraient venus par la suite de toute façon. J'aime penser que dans une centaine d'années d'ici, mes arrière-arrière-petits-enfants auraient pu les refouler ou les immobiliser. Mais cela non plus n'est pas certain. Je me souviendrai toute ma vie de ces 4 premiers hommes que j'ai rencontrés, qui étaient musclés comme des taureaux et qui me donnaient l'impression, même pour un instant, d'être petite. Une réaction neurotique, prétend Cathy. Je me souviens de tout ce qui s'est passé cette nuit. Je me souviens de l'excitation de Yuki dans la voiture. Je me souviens des sanglots de Cathy quand nous rentrâmes à la maison, comme si son cœur allait se briser. Je me souviens de la manière dont elle fit l'amour, un peu péremptoire comme toujours, mais merveilleusement apaisante et réconfortante. Je me souviens d'avoir erré fébrilement dans la maison après que Cathy s'était endormie, un bras nu baignant dans une tache de lumière venant du hall. Les muscles de ses avant-bras ressemblent à des barres de métal à force de conduire et de tester des machines. Parfois, je rêve des bras de Cathy. Je me souviens être entrée dans la chambre des enfants et avoir pris le bébé de ma femme, m'assoupissant un instant sous la chaleur poignante, incroyable, de cet enfant sur mes genoux. En retournant à la cuisine, j'y ai trouvé Yuriko, qui se préparait un casse-croûte tardif. Ma fille dévore comme un grand Danois. « Yuki, dis-je, penses-tu que tu pourrais tomber amoureuse d'un homme ?» Elle toussa d'un air moqueur. « Et pourquoi pas d'un crapaud de 3 mètres de haut ?» répliqua mon enfant avec tact. Mais les hommes arrivent à temps passé. Ces derniers temps, je veille beaucoup et je m'inquiète de ces hommes qui viendront sur cette planète. Je m'inquiète pour mes deux filles et pour Bata Katari Nason. Je me demande ce qui arrivera à Cathy, à moi, à ma vie. Les journaux de nos ancêtres ne sont qu'un long cri de peine et je suppose que je devrais être heureuse à présent, mais on ne peut pas rejeter ainsi 6 siècles, ni même, comme je l'ai découvert récemment, 34 ans. Parfois, je ris de la question que ces 4 hommes brûlaient de nous poser toute la soirée, sans oser jamais la formuler vraiment, nous regardant les unes après les autres, gaillardes en salopette, fermières en pantalon de toile et chemise flottante. Lesquels d'entre vous jouent le rôle de l'homme ? Comme si nous devions produire un double carbone de leurs erreurs. Je doute très fort que l'égalité sexuelle ait été rétablie sur Terre. Je n'aime pas penser que l'on puisse se moquer de moi, ni que Cathy puisse être considérée comme une faible, ou que Yuki doive se sentir peu importante ou bête, ou encore que mes autres enfants soient volés de leur complète humanité ou deviennent des étrangers. Et j'ai peur que mes propres exploits soient détournés de ce qu'ils étaient, ou de ce que je croyais qu'ils étaient, jusqu'à n'être plus qu'une curiosité banale de la race humaine. Une bizarrerie comme on peut en voir sur le dos des livres. Une bagatelle dont on rit parfois à cause de son caractère exotique, baroque, mais pas impressionnant, charmant, mais pas utile. Je trouve cela plus douloureux encore que je ne pourrais le dire. Il faut admettre que pour une femme qui s'est livrée à 3 duels, 3 mises à mort, il est grotesque de s'abandonner à de telles frayeurs. Mais le combat qui m'attend à présent est si terrible que je ne pense pas avoir le courage de l'affronter. Comme le dit Faust, « Verweile doch, du bist so schön. » Reste ainsi, ne change pas.
Voilà, on voit bien que c'est bien différent que la description des sociétés contre nature dont on parlait tout à l'heure. Alors, une autre écrivaine que personnellement j'aime beaucoup, c'est Kate Wilhelm, qui est née en 1928 dans l'Ohio aux États-Unis et qui a publié sa première nouvelle en 1957. Elle a écrit de nombreuses nouvelles et des romans, elle a reçu des prix. Dans ses écrits, il y a, enfin, parce qu'elle, elle se revendique pas particulièrement féministe, mais dans ses écrits, il y a toujours des personnages féminins vraiment consistants et complexes qui prennent des initiatives, qui sont souvent en fait vraiment aussi l'héroïne, quoi, les protagonistes de l'histoire. Elle développe surtout en fait des questionnements autour des présupposés de la science et des technologies. Et elle s'applique beaucoup à démontrer que la pensée scientifique ne peut pas être jugée indépendamment de toute considération morale, que voilà en fait juste la vérité en dehors d'un système de valeurs, ça n'existe pas, quoi. Et elle étudie aussi de manière assez approfondie comment les rapports humains et sociaux sont influencés par des nouvelles découvertes scientifiques ou des nouvelles technologies. Et alors je vais vous parler d'un de ses romans qui s'appelle Where Late the Sweet Birds Sang, en français, Hier les oiseaux, c'est beaucoup plus facile. Ce roman, il a été publié aux États-Unis en 1976, et c'est l'histoire en fait d'une riche famille de propriétaires terriens, les Sumner, qui ont pressenti que la pollution et la guerre vont finir par ravager la Terre, alors ils ont construit un centre de recherche scientifique secret qui leur permet de survivre en économie fermée. Et ils ont même anticipé qu'au lendemain de la catastrophe, les hommes et les femmes seraient stériles, et ils ont mis en place une méthode de clonage. Et donc ça arrive vraiment, le monde il est complètement ravagé et tout, mais donc dans cette vallée secrète, quoi, cette famille continue à vivre. Et avec le temps qui passe, ça donne une communauté organisée en sous-groupes de clones à partir de la même personne, mais qui les clones ont des âges différents, et qui développent des sensibilités plutôt collectives qu'individuelles. Et là, par une suite d'événements, quoi, que je ne vais pas détailler ici, il y a une de ses clones, Molly, qui sort en fait de son groupe et qui se met à peindre et développe une individualité qui est rapidement réprimée par la communauté. Elle est donc exclue et elle vivra pendant un temps dans une maison isolée où au début elle va voir régulièrement un autre clone, Ben, qui lui il est censé étudier ce qui lui est arrivé. Et les deux en fait ils développent une sorte de relation amoureuse, ce qui finit par faire peur à Ben et à son groupe de clones, et ils décident de les éloigner. Mais Molly, à ce moment-là, elle est déjà enceinte et elle donne naissance à Mark, qui grandit en vivant d'abord avec elle. Et, mais par la suite, il est amené à vivre avec le reste de la communauté. Et donc, ils s'en suivent plein de situations assez complexes, justement, entre les rapports de cette communauté d'êtres qui ont l'habitude de vivre en groupe, en fait, et d'avoir une sensibilité collective avec ce garçon qui a grandi comme un individu à part entière. Et voilà, et forcément, ça pose du coup aussi la question, cette question si des clones sont ou peuvent être considérés comme des humains.
Alors, moi, je vais vous parler de Ursula Le Guin, qui est peut-être la plus connue et reconnue, je dirais, des auteurs de science-fiction femmes, et même dans l'absolu, parce qu'elle a eu plein de prix et tout ça. Alors elle est née en 1929 et en fait ses parents étaient des intellectuels, des écrivains, des anthropologues qui travaillaient beaucoup sur les Amérindiens. Et du coup ça explique qu'il y a quelque chose qui est toujours resté important pour elle, c'est ces histoires de contes, de mythologies, des légendes et aussi ce côté un peu anthropologue de rapport à l'autre et de comment en gros étudier des sociétés différentes. Alors, je vais parler plus particulièrement d'un roman qui s'appelle La main gauche de la nuit, The Left Hand of Darkness, qui est sorti en 1969, qui est un livre qui a eu pas beaucoup de reconnaissance dans le milieu littéraire, mais qui a été acclamé dans le milieu de la science-fiction, qui a eu plusieurs prix, et dont on parle encore comme vraiment un livre clé dans l'histoire de la science-fiction. Alors, en gros, ça raconte l'histoire d'un espèce d'observateur diplomate qui est envoyé sur une planète qui s'appelle Ketten ou Winter, où il fait très froid, et où les habitantes sont en fait androgynes. Et du coup, il y a plus de genre. Toutes les personnes sont apparaissent comme ni hommes ni femmes vraiment la plupart du temps, sauf pendant une période qui dure 2-3 jours par mois, qui s'appelle le Kemmer, qui est en fait la période pendant laquelle ces personnes deviennent actives sexuellement. Et c'est seulement au moment de l'acte sexuel qu'il y a un sexe biologique qui apparaît chez ces personnes-là en fonction de qui elles ont en face. Donc par un petit système chimique de phéromones, voilà, s'il y a quelqu'un qui a des phéromones très fortes, masculines ou je sais pas quoi, qui fait que ça va être un homme pendant l'acte sexuel, la personne en face va devenir une femme, voilà. Alors, en fait, Le Guin, au départ, elle voulait surtout écrire une histoire sur une société qui ne connaîtrait pas la guerre. Et donc, elle s'est posé la question, qu'est-ce qui crée beaucoup de divisions et d'inégalités dans notre société? Bah, c'est quand même ces problèmes de genre et de sexe biologique. Donc, hop, on n'a qu'à imaginer une société où ça n'existerait pas, pour voir ce que ça donne. Et donc, en fait, nous, le lecteur, lectrice, on va découvrir cette planète à travers les yeux d'un être humain qui se trouve être un homme, qui s'appelle Genli Hai, et qui lui a beaucoup de mal à se débarrasser des catégories genrées, et ça le bouleverse pas mal, tout ça.
Et alors voilà ce qu'il écrit dans ses rapports. Réfléchissez à ceci, chacun peut tout faire. Cela a l'air très simple, mais a des effets psychologiques incalculables. Toute personne entre 17 et 35 ans peut être astreinte à porter un enfant, ce qui signifie que nul n'est aussi asservi que les femmes le sont ailleurs, psychologiquement et physiquement. Les fardeaux et les privilèges sont partagés également, chacun court les mêmes risques, fait les mêmes choix. Donc, personne n'est tout à fait aussi libre que les hommes partout ailleurs. Considérez encore ceci, l'humanité n'est pas divisée en deux moitiés, forte faible, protectrice protégée, dominante soumise, propriétaire possédée, active passive. En fait, cette tendance au dualisme qui emprunte toute la pensée humaine se trouve très amoindrie ou transformée sur Winter. Ce qui suit doit être mis dans mes directives définitives. Quand vous rencontrez un Géthénien, vous ne pouvez ni ne devez agir comme le fait naturellement un être bisexué, c'est-à-dire lui donner le rôle d'homme ou de femme, tout en jouant en face de lui un rôle correspondant qui dépend de ce que vous attendez des interactions possibles et traditionnelles entre personnes d'un même sexe ou de sexe opposé. On est ici respecté et jugé seulement en tant qu'être humain. C'est une expérience épouvantable.
Alors voilà, lui, il souffre de tout ça. Et puis, bien qu'ils disent qu'il ne faille pas vouloir transposer sa vision binaire du monde, eh ben, lui, il le fait tout le temps, en fait. Et ça va avec une certaine misogynie. Parce que lui, en gros, les personnages à qui il a affaire, c'est surtout des gens qui ont du pouvoir. Et il les voit toujours clairement comme des hommes. Et parfois, il leur attribue des qualités féminines, mais qui sont toujours des choses négatives, en fait. Que ce soit de la faiblesse, utiliser la séduction comme quelque chose d'assez sournois, ou des choses comme ça que lui condamne ou qu'il mette mal à l'aise. Et du coup, comme tout est vu à travers les yeux de ce personnage, et qu'en plus, tous les autres personnes qui rencontrent ces personnes androgynes sont toujours décrites avec le pronom « il », et avec du vocabulaire qui est du vocabulaire qu'on... plutôt du côté masculin, et ben c'est assez perturbant quand on lit et on se dit bah peut-être ça marche pas si bien que ça en fait ce truc là et ça c'est aussi quelque chose que Joanna Russ, dont on a pas mal parlé déjà, elle a reproché à Le Guin en disant et ben juste on les voit pas comme des androgynes ces personnages là, on les voit comme des hommes. Et alors Le Guin a répondu à ça en disant moi, ce que je voulais pas, c'était créer un pronom, parce que ce serait trop compliqué, même si après, il y a d'autres auteurs qui l'ont fait. On en reparlera lors d'une prochaine émission. Bref. Et du coup, elle se défendait un peu là-dessus. Et finalement, quelques années après, elle a repris le texte qu'elle avait écrit, dans lequel elle répondait aux attaques de Joanna Russ et d'autres féministes, en disant, bah ouais, en fait, ce bouquin, ok, il est bien pour plein de trucs, mais là, ça marche pas, en fait, le monde que j'ai créé, et l'impression que... d'essayer de faire disparaître le genre et l'impression qu'il y a que des personnes androgynes, ça fonctionne pas. Mais bon, elle s'est dit, je vais pas réécrire ce livre, en même temps, on serait un peu débile. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réécrit d'autres nouvelles autour de cette planète et d'autres. Et on peut les retrouver dans un recueil qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle L'anniversaire du monde, et où justement il y a plein de nouvelles autour de ça, en fait, des relations entre les individus, relations sexuelles, relations amoureuses, comment elle imagine plein de possibilités. Et du coup, elle revient notamment sur ces personnages androgynes, où là, elle utilise le pronom, en tout cas en anglais, he, she, donc il, elle. Et où clairement, là, on ne sait pas à qui on a affaire, en fait. On ne peut pas vraiment se dire c'est un homme, c'est une femme, et tout ça. Et du coup, c'est intéressant aussi ce que ça provoque au lecteur, où on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le genre des personnages, comme la vie, dans la vie, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le genre des gens? C'est très beau.
Et alors, ce qui est vraiment intéressant avec l'œuvre de Ursula Le Guin, c'est que, en fait, pratiquement tous ses romans de science-fiction, ils jouent dans le même univers qu'elle a imaginé à un moment. Et c'est en fait qu'à l'origine, la planète Aïn, il y a des centaines de milliers d'années, a essaimé l'humanité sur des dizaines de planètes, dont la Terre. Et c'est les Aïniens, ils étaient assez, ils avaient vraiment des capacités très poussées de technologiques et tout. Et ils ont d'abord multiplié les expériences génétiques et sociologiques en installant sur chaque monde colonisé une humanité différente. Et seulement par la suite, en se rendant compte que ces atrocités auxquelles, enfin, en se rendant compte des atrocités auxquelles avaient conduit certaines de ces manipulations, ils en ont ressenti une intense culpabilité collective et ont créé d'abord la Ligue de tous les mondes et puis l'Écumène pour tenter de réparer. Et donc l'Écumène, c'est justement cette instance où Gentii, par exemple, il est un mobile en fait de l'Écumène qui va donc en mission sur des planètes pour découvrir des nouvelles planètes, mais avec toujours une retenue très forte en fait, avec une curiosité en fait à découvrir l'autre. Et ça, c'est vraiment un thème très récurrent en fait dans toute l'œuvre de science-fiction de Ursula Le Guin, cette envie en fait de rencontrer l'autre, d'essayer de comprendre sans juger en fait d'autres cultures, d'autres échelles de valeurs. Et ça crée vraiment des sociétés où elle imagine en fait des organisations sociales complètement différentes, par des modifications génétiques ou quoi, des corps complètement différents, mais c'est toujours très très intéressant. Et alors, on arrive à la fin de notre émission. On aurait aimé parler de plein d'autres écrivaines encore, comme par exemple Joëlle Vintrebert, Sylvie Denis, justement, ces deux que tu viens de citer, c'est des écrivaines françaises qui sont pas très très nombreuses en fait dans la science-fiction. Mais bon, voilà, là on n'a plus le temps et justement, on s'est dit, on va faire une deuxième émission à propos de ce sujet-là pour pouvoir vraiment parler de la science-fiction féministe et raconter plus d'histoires, vous lire même peut-être des nouvelles en entier. Et ça sera dans 2 semaines, et ben même heure, même fréquence. Bonsoir. Et on vous quitte avec...
Avec une chanson de Robots in Disguise.
I think.